Vous êtes sur RTL.
7h, 9h.
RTL Matin.
RTL 8h20, bonjour Claire Deya.
Bonjour.
Depuis une vingtaine de minutes, vous êtes donc la lauréate du Grand Prix RTL Lire Magazine 2024, annonce faite sur RTL par Philippe Labro, président du jury qui est resté avec nous, et Bernard Lehu, notre spécialiste littérature qui nous rejoint. Bernard, Philippe, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Avant de parler de votre roman Un monde à refaire, publié aux éditions de l'Observatoire, je rappelle à nos auditeurs que le prix RTL Lire Magazine est attribué par 100 lectrices et lecteurs ainsi que 20 libraires dans l'ensemble du pays. Dites-nous très simplement peut-être ce que vous ressentez après l'attribution de ce prix.
Très simplement, je suis folle de joie et il ne faut absolument pas que j'en dise plus parce que sinon je vais perdre toute crédibilité. C'est le prix, j'en ai rêvé vraiment, j'avais très très envie de l'avoir et je suis folle de joie.
Personne réellement. Ne doute que vraiment que vous le méritiez. Claire Deya, votre roman Un monde à refaire nous plonge en fait dans un épisode méconnu, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le déminage des plages françaises. C'est un chantier absolument colossal d'un danger extrême. Expliquez-nous.
En fait, juste après la guerre, on s'est rendu compte qu'il y avait 13 millions de mines sur le sol français. 13 millions. C'est incommensurable, c'était inédit, c'est la première fois qu'on avait ça. Et De Gaulle s'est dit, c'est l'État qui va s'en charger, on a fait appel à des volontaires. 3000 Français se sont présentés pour déminer. Il fallait, dans cette équation, 13 millions de mines, 3000 volontaires français, il fallait trouver une solution. Et la solution folle, inédite et peut-être visionnaire qui a été trouvée, ça a été de faire travailler les démineurs français avec les prisonniers de guerre allemands, ce qui a été cette première expérience a été comme un laboratoire de paix. Les tensions étaient incandescentes entre les deux groupes et finalement, ensemble, ils ont commencé à reconstruire la France.
Comment êtes-vous venu à vous intéresser à un tel sujet, le déminage d'après-guerre ?
Alors, comment j'aurais pu ne pas m'y intéresser ? C'est-à-dire que dans ce sujet-là, il y a tout. Moi, c'est un premier roman, donc j'avais envie de tout donner. J'avais envie d'histoire d'amour en même temps que d'histoire d'enjeux très forts. Il y a tout dans ce sujet. Il y a des histoires de mort, il y a des histoires de fraternité, il y a des dangers qui rôdent en permanence. Et quand le danger rôde en permanence, quand certains profitent de leur vie juste après la guerre et que d'autres risquent la leur, comment est-ce qu'on fraye sa place ? Comment est-ce qu'on trouve son droit au bonheur ? J'avais envie de tragique et d'espérance.
Une des curiosités de votre livre et qui en fait aussi son charme, c'est que vous avez choisi des plages de la Côte d'Azur, alors que spontanément, on pense bien entendu en Normandie ou au débarquement. Pourquoi ?
Parce que je voulais montrer, c'est vrai qu'on pense à la Normandie, mais en fait, le Sud, tout le monde l'ignore, a été extrêmement miné pour empêcher le débarquement des Alliés, qui a eu lieu en août 44 en Provence. En fait, je voulais montrer l'enfer au paradis. Je voulais que ça soit solaire, alors que c'était tragique.
Voilà. Bernard Lehu.
Alors, on peut s'étonner, on pouvait imaginer que ce soit les militaires, les soldats qui déminent ces plages. Pourquoi a-t-il fallu faire appel à des volontaires français et réquisitionner les prisonniers allemands ?
Parce que, en fait, les soldats français étaient occupés au nord. En fait, la guerre n'était pas finie. Juste après le débarquement, il a bien fallu déminer. Mais sauf que le débarquement dans le sud, c'est en août 44 et que la guerre continue. La guerre continue en France, dans la poche de Saint-Nazaire, par exemple. Et puis, plus au nord. Et puis après, en Allemagne. Donc, en fait, les militaires étaient occupés. Donc, voilà. Et De Gaulle ne voulait pas faire appel à des sociétés civiles parce que la reconstruction après la Première Guerre mondiale, même s'il n'y avait pas de mines, a été un peu une catastrophe parce que les sociétés civiles s'en sont vraiment mis plein les poches. Et là, il voulait que ce soit l'État, une certaine idée de l'État.
Comme vous l'entendez, Claire Deya est très documentée.
Oui,
c'est une des choses les plus impressionnantes de ce livre. C'est le travail qu'elle a fait, les détails, la précision. Vous avez travaillé quoi ? Une ou deux ans ?
J'ai travaillé plus, en fait. J'ai travaillé plutôt deux ans et demi, en fait.
Ah mais ça se sent. C'est ça qui est aussi passionnant. Vous avez l'intrigue, les personnages. Il y a une multitude de personnages, hommes et femmes. Ça se croise, comme dans tous les grands romans. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est j'apprends des choses tout le temps. On est tout le temps informé. C'est pas seulement un roman, c'est un document. C'est un documentaire.
Bernard Lehu.
Alors, ça reste aussi un roman, un grand roman sur ce contexte historique. Vous greffez une trame romanesque, bien sûr. Vincent, un volontaire français, recherche Ariane, la femme qu'il aime et qui a disparu pendant la captivité de Vincent en Allemagne. D'où vient l'idée de cette quête qui va véritablement nous tenir en haleine, Claire Deya ?
C'est-à-dire que c'est aussi une époque qui me passionne parce que la loyauté amoureuse est immense. Moi, j'ai lu juste avant d'écrire le roman, la correspondance de mon grand-père lorsqu'il était en camp de prisonnier à Cassel. Et voilà, et ça m'a complètement subjuguée, frappée, galvanisée. Ça, de lire ces lettres d'amour et de voir que tout ce qu'il avait fait tenir pendant 2 ans et demi, c'était, c'était la femme qu'il aimait et qui... enfin, voilà, dont il n'avait plus de nouvelles à un certain moment. Je ne vais pas dévoiler le livre, mais évidemment, ce que je voulais, c'était des enjeux romanesques très forts. Jusqu'où on est prêt à aller par amour? Aujourd'hui, évidemment, il y a des applications de rencontres, ça va très vite. Mais à l'époque, en fait, tous ceux qui avaient été séparés de la femme qu'ils aimaient pendant des années de guerre ou de camp de prisonniers souhaitaient reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, et c'était pas évident. Et jusqu'où on est capable d'aller par amour, les risques qu'on est capable de prendre par amour, risquer sa vie par amour, ça me bouleversait.
On croise une très belle galerie de personnages dans Un monde à refaire, notamment Saskia, une jeune juive rescapée de la Shoah. Elle se devait d'être là, sa présence était incontournable.
Alors, elle est rentrée malgré moi dans le roman, enfin pas malgré moi, mais presque à mon insu. C'est une femme que j'ai rencontrée et qui a choisi de me parler après des années et des années et des années de silence.
Saskia existe.
Saskia existe. Enfin, alors, malheureusement, elle nous a quittés, mais Saskia existe, elle m'a parlé et en fait, elle n'a jamais parlé, même pas d'ailleurs à sa famille proche. Et en fait, un jour, elle a décidé de se confier à moi. Pourquoi est-ce qu'elle m'a choisie? Je ne sais pas. Peut-être parce que je raconte des histoires, je ne sais pas. En tout cas, en écrivant, j'écrivais sur des mineurs, je ne pensais pas à parler d'elle. Et elle est montée dans un car, elle a rencontré le héros, elle n'a plus quitté le roman.
Alors, c'est une scénariste. Oui, pardon, Philippe. N'oubliez jamais que Claire Deya est une scénariste.
Oui, oui. Donc... Ça ne vous est pas indifférent, j'ai bien compris.
Pas du tout.
Nous non plus.
Et historienne de formation, ce qui est aussi pour écrire un roman comme celui-là. Alors, on l'a dit, Allemands et Français, les ennemis de la veille, vont apprendre à travailler ensemble. Est-ce que dans ces circonstances, et ça c'est une question fondamentale qu'aborde également votre livre, le pardon est-il possible, Claire Deya?
Alors, c'est la grande question que tout le monde, évidemment, se pose, Elie Wiesel, tout le monde, Simone Veil. Moi, ce que j'ai vu dans ces... Il y a une historienne qui s'appelle Danielle Volman qui a écrit sur les démineurs. Elle dit que ces laboratoires, ces groupes de déminage étaient comme des laboratoires de paix. C'est-à-dire des gens qui se haïssent, apprennent à travailler ensemble, à s'apprécier, à se respecter, à s'estimer. Le pardon, en fait... Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on a construit l'Europe sur l'axe franco-allemand alors qu'on venait de subir 3 guerres atroces. 70, 1914 et 1939. Pour moi... il y a une troisième voie, c'est-à-dire que c'est ni pardon, ni oubli, mais réconciliation. On ne pardonne pas, on n'oublie pas, on se réconcilie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, qui est extrêmement difficile. Ça serait bien qu'après l'art de la guerre, certains se penchent sur l'art de la paix. Comment, après avoir gagné la guerre, on gagne la paix?
Philippe Labreau.
On amorce l'Europe, en fait. C'est le début de l'Europe. Il y a autre chose aussi, mais c'est tellement plein de choses. Des références très fréquentes à Camus, qui vous accompagne, je crois, depuis toujours. Zweig, bien sûr, le monde d'hier. Et puis, n'oublions pas la couverture avec cette photo sublime de ce grand photographe américain, Elliot Erwitt, qui vous a autorisé, vous avez eu l'autorisation d'utiliser cette photo sublime dans un rétroviseur sur une plage de deux amants qui s'embrassent.
Alors, cette photo, c'est... L'histoire est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, avec Dana Burlak, mon éditrice, on voulait vraiment un visuel très fort et je lui avais fait un brief totalement improbable. Je lui avais dit, je voudrais un couple qui est incapable de regarder en face la plage, mais qui n'est préoccupé que du passé. Et elle m'envoie ça en me disant, tu sais, on ne l'aura pas, c'est évidemment... Et moi, j'adore cette photo, c'est la photo iconique d'Eliot Erwitt. Il y avait une exposition au musée Mayol. Et en fait, elle m'appelle 2 jours plus tard en me disant, il parle français, on lui a raconté l'histoire en français, il a été ému par cette histoire, et il nous accorde les droits, alors que je pense que beaucoup de maisons, je pense, auraient aimé. C'était le deuxième miracle. Il y a eu un miracle qui est que le livre s'est vendu à Londres, a été vendu aux États-Unis au salon du livre de Londres, avant même d'être édité en France. Le deuxième miracle, c'est la photo d'Eliot Erwitt, et jamais 203, le troisième miracle, c'est le prix RTL. Donc, je suis rationnelle, je crois au miracle.